London, in a me knee and in a me bars and a in me body. To me eat good food, your money keep me body healthy. Drink enough aisle money make me body separate. Do enough exercise so me physical.
Messieurs et dames, c'est vendredi. Printemps et plaisir pour coûter des mots quatre paroles de 20 à 21h30. Des mots quatre paroles, Bonne la voix sur le 88.4. Coûter et entendre, tout plaisir en nous, là.
Pas même Jean Bello, nous changer l'esprit du fond. Par les autres finis joints, avec Aïmou, pas ça vous sent bien. Alors, doit que profiter, compagnie, plus bon dominé.
Nous caillons, d'après nous, la gagne, ouais, si ça veut. Et nous t'avons pas avancé, pas mon qui va même ça vous laïer. Nous caillons, d'après nous, la gagne, ouais, si ça veut. Et nous t'avons pas avancé, pas mon qui va même ça vous laïer.
Bonsoir, bonsoir, auditrices et auditeurs de Radio Galère, émission de mots quatre paroles que j'espère vous apprécierez de retrouver. Donc, nous avons arrêté depuis quelques années maintenant, des années de pause. Nous verrons si nous tenons la distance pour reprendre de façon un peu plus régulière. Nous n'oublions pas de remercier notre ami Aziz, fidèle à l'actualité algérienne, de nous avoir accordé une heure de son émission pour notre prise, ainsi qu'à notre ami Sidi pour son soutien et le désir qu'il a exprimé pour notre retour à Radio Galère. Nous retrouverons l'équipe d'animateurs avec un rythme mensuel chaque deuxième vendredi du mois dans un premier temps. Cependant, une absence douloureuse marquera désormais notre émission. Vous n'entendrez plus la voix de notre ami et camarade Blaise avec ses analyses politiques incisives, combattant les injustices et dénonçant les copains et les coquins, où qu'ils se trouvent sur la planète, et surtout toujours fidèle à sa carte du Parti communiste français et du Parti communiste guadeloupéen. La disparition de Blaise, ainsi que celle d'autres camarades comme Étienne et tant d'autres qui nous ont accompagnés dans cette aventure, est une perte immense. Mais en leur mémoire et pour honorer leur engagement, nous ne pouvons pas vous souhaiter une excellente, nous pouvons que vous souhaiter plutôt une excellente année 2025 avec une santé de fer pour continuer à mener des luttes contre ce système libéral qui, jour après jour, nous engloutit malgré toutes les résistances. Merci d'être avec nous donc et à très bientôt pour de nouveaux échanges et réflexions. Pour notre première émission, nous avons deux amis qui se présenteront à l'issue de première respiration musicale et nous parlerons d'Haïti afin de tenter de briser le silence qu'il y a sur ce pays. Musique, merci Sidi.
Ule, 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 ule.
Choukboua Libété, rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous et bienvenue dans, à l'écoute de l'émission Démocrate Parole, diffusée sur les ondes de Radio Galère, sur le 88.4 en DAB+, sans oublier notre fenêtre ouverte sur le monde www.radiogalère.org. Vous pouvez également écouter nos podcasts pour nous réécouter à tout moment. Pour toute question, vous pouvez nous joindre, non pas cette fois-ci, au 04 80 08 28 10, mais ce sera l'occasion de la prochaine émission. L'intitulé de l'émission de ce soir est « La soupe de l'indépendance ». Bonsoir Daniel, ça te parle la soupe de l'indépendance.
Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
La soupe de l'indépendance, mais l'indépendance de quoi ?
De qui ? Oui, de quoi ? C'est d'Haïti. Donc la soupe de l'indépendance est un symbole fort de la culture haïtienne. Ce nom trouve son origine dans un moment clé de l'histoire d'Haïti, la proclamation de l'indépendance le 1er janvier 1804. Symbole de la résistance et de la libération, la soupe est associée à l'idée d'un peuple qui, après avoir conquis sa liberté, célèbre l'abolition de l'esclavage qui pesait sur lui depuis des siècles. L'histoire de cette soupe ne peut être dissociée de la lutte contre l'esclavage ainsi que des deux abolitions majeures qu'Haïti et d'autres anciennes colonies françaises ont connues. Cependant, ces abolitions n'ont pas été vécues de la même manière dans toutes les colonies. Et ainsi bien que nous avons ce soir le plaisir d'accueillir dans un premier temps notre ami Daniel Garnier. Daniel Garnier est un militant engagé de longue date et actuellement bien investi dans la librairie Transit Librairie. Donc, je ne me suis pas trompé dans ta présentation.
C'est la librairie Transit, mais c'est aussi, si je suis là, c'est aussi pour la collaboration avec un petit ouvrage sur Marseille qui trace le lien entre Marseille et la colonisation, qui s'appelle donc le guide du Marseille colonial.
Tout à fait, c'est de cela dont nous allons parler avec toi. Donc je voulais savoir un peu, peux-tu dire deux mots, ou comme on dit, des mots quatre paroles sur la librairie Transit, parce que sur la place Marseillaise, c'est une librairie qui est assez particulière, tant dans son mode de fonctionnement, mais sur le choix aussi des ouvrages qui sont proposés.
Oui, alors Librairie Transit, c'est une librairie associative qui est au 51 boulevard de la Libération, donc placée pas très loin des réformés. Et cette librairie est donc purement associative et pour l'instant, nous n'avons pas de salariés. Donc on fonctionne sur la base de l'engagement militant des membres de l'association. Donc, on arrive comme ça à ce qui nous intéresse le plus, disons, c'est diffuser les livres que nous choisissons, nous, pour être mis en avant, mais aussi rencontrer des auteurs et avoir des débats et des échanges et aussi permettre à des gens qui le veulent, dans l'association, d'être partie prenante directement dans la librairie, c'est-à-dire d'apprendre un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une librairie, comment ça fonctionne, le rapport avec les éditeurs, comment prendre la parole aussi quand on invite des auteurs. Enfin voilà, il y a aussi une formation comme ça à l'intérieur de l'association qui est quand même assez intéressante. Donc, librairie qui commence à être de mieux en mieux connue et qui est un partenaire de beaucoup d'expériences militantes où on arrive avec nos ouvrages en général sur une table de presse.
Et de sur quoi vous faites des rencontres aussi, vous organisez voilà. Beaucoup de rencontres.
C'est ça, c'est ce qui nous intéresse, c'est les rencontres aussi, et c'est les rencontres essentiellement d'auteurs, mais aussi parfois c'est des associations qui viennent se présenter. On avait reçu CEDEC récemment, on a reçu Aide par exemple, mais là c'est vrai qu'il y avait un ouvrage support, mais c'est pas tout à fait obligatoire. Mais on a aussi une ouverture à la littérature, à la poésie aussi, en gardant un peu un axe qui est toujours le même, c'est-à-dire un axe de travail sur les émancipations dans divers domaines, hein, que ce soit la question de l'impérialisme, le colonialisme, le post-colonialisme, mais aussi les questions sur le quotidien, sur la vie quotidienne, les questions de genre, les questions de racisme. Et on est fortement engagé dans tous ces domaines-là et on essaie d'avoir le maximum de ressources au niveau de la réflexion pour pouvoir agir.
Merci de cette première présentation, mais tu nous as parlé tout à l'heure du guide du Marseille colonial. Est-ce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes? Depuis quand ce guide existe-t-il? De quelle manière a-t-il été travaillé? Par qui? Est-ce un collectif? Est-ce des scientifiques, des militants? Comment les choses se sont-elles déroulées? Et pourquoi cette nécessité a fait jour? Pourquoi Marseille?
Alors, d'abord, le guide du Marseille colonial, c'est à l'intérieur d'une série de guides comme ça sur différentes villes. Ça a été lancé par les éditions Silefs. Mais juste après, le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis qui a quand même encouragé à revisiter cette histoire coloniale un peu partout et cette domination occidentale. Et donc, on a été sollicité, enfin, un d'entre nous a été sollicité parce qu'il avait fait un petit blog dans lequel il commençait à détailler un petit peu ce qui se passait dans Marseille comme trace de la célébration coloniale, notamment le monument des mobiles. Et donc, c'est Alain Castan qui a réuni autour de lui donc une petite équipe. On s'est retrouvés à 11, finalement, comme ça, à partir de notre envie, de notre motivation de pouvoir travailler sur ce sujet. Et on a appris beaucoup de choses en le faisant. Donc, on n'est absolument pas des historiens. On est plutôt passionnés du militantisme, d'aller chercher un petit peu comment on peut se représenter ce colonialisme, alors que parfois on ne le voit pas trop apparent. Hein. Je pense aux escaliers de la gare, où en bas on a des immenses statues. En tant que Marseillais, on les oublie.
Donc là, on ne les voit pas dessus, effectivement.
Ah. Voilà, on les oublie parce qu'on passe par là et puis on monte à toute vitesse les escaliers de la gare quand on est assez jeune, hein, parce que maintenant ça devient compliqué.
Oui, bon.
C'est mal au genou. Mais bon, dans tous les cas de figure, on les monte et on ne regarde pas ce qui se passe. Là, du coup, notre attention, à la faveur de ce guide colonial, a été aiguisée sur beaucoup de choses, comme ces fameuses statues. Et donc, on est allé fouiller un petit peu les traces dans Marseille qu'on pouvait repérer et ça a donné, on a travaillé donc à 11. Il y a eu un découpage par arrondissement qu'ensuite on a redécoupé dans le cadre d'un site internet hein, qui s'appelle du même nom, Guide du Marseille colonial tout attaché .org je crois, oui .org, et où on voit une carte interactive où on peut repérer les lieux qu'on a mis en évidence comme étant des noms de personnages ou de monuments qui ont participé donc à ces opérations coloniales.
Parmi les opérations coloniales concernant la traite négrière et l'esclavage, est-ce que parmi les Marseillais, y a-t-il eu certaines personnalités qui ont été armateurs, qui ont eu et qui ont fait le négoce de nègres, pourrions-nous dire?
Oui, alors c'est ce qu'on a découvert. Moi, je ne connaissais pas non plus. Hein. C'est en fouillant à partir de la biographie d'un certain nombre de personnages qui avaient leur nom de rue à Marseille qu'on a trouvé ça. Bon, effectivement, il y avait eu aussi des personnes qui avaient alerté sur la présence aussi de noms de négriers. Donc nous, on a travaillé. Disons que je pourrais en citer deux hein, qui sont notables. Hein. Vous pouvez regarder sur le site. Hein. On a regroupé dans un même tableau tous ces négriers ou personnages qui avaient rapport avec les négriers. Alors je citerai les deux. D'une part, le fameux Georges de Corse, qui était donc un armateur marseillais et qui, aujourd'hui, les traces qu'il a laissées, c'est non seulement le nom d'une rue, Georges Roux de Corse, mais aussi un bâtiment qui est toujours en activité, qui est en fait le lycée Montgrand. Et c'était son hôtel particulier, donc juste à côté de la préfecture, le lycée Montgrand est donc le lycée qui était dans les bâtiments, hôtel particulier de Georges Roux de Corse, qui pour partie donc a fait sa fortune dans le commerce d'esclaves. Mais il faut dire quand même qu'à Marseille, c'était beaucoup moins engagé qu'à Bordeaux notamment,
ou
toute la côte
Rochelle
atlantique.
Autres,
hein. Ça a été plus marginal, mais néanmoins, ce problème-là a existé et a souvent complété les fortunes. Ce n'était pas basé essentiellement là-dessus. Hein. On ne peut pas dire qu'il y a eu un personnage qui a basé essentiellement sa fortune là-dessus, mais il y en a eu qui se sont engagés, on peut dire à la fois des armateurs, parfois des marins et autres. Bon, alors le deuxième personnage, c'est Dugommier, hein, dans le boulevard Dugommier, qui est bien connu aussi, et qui aussi, lui, possédait donc des esclaves. Et un troisième qui me revient, là, c'est Blancard. C'est un capitaine qui, lui, alors lui, c'est assez curieux parce que je ne suis pas arrivé à trouver s'il avait participé à la traite, mais il a fait tout un traité sur le commerce vers les Indes, en suivant toute la côte africaine et en passant par en bas, là, par le Cap, et pour remonter vers Madagascar, l'île Maurice, la Réunion, etc. Et lui, il décrit précisément, à chaque point de la côte, quelles sont les qualités de la marchandise qui peut être achetée. Et dans cette marchandise, il y a une bonne partie qui sont des esclaves. Et pour certaines autres parties de la marchandise, ce sont les éléments qu'on appelle ensuite les pacotilles, mais qui n'étaient pas des éléments de peu de prix. Hein. C'était des éléments qui servaient d'échange pour acheter les esclaves. Donc il décrit pas que le commerce d'esclaves, mais beaucoup de choses sont liées à ce commerce d'esclaves. Il a l'air très très bien renseigné. Donc j'imagine quand même qu'il a eu des contacts assez étroits avec les marchands d'esclaves.
Bon. Tu as dû rencontrer Buty, le professeur Buty, Gérard Buty.
Alors, oui. Buty, il a fait un ouvrage particulier, il a fait plusieurs articles sur la traite négrière, il a sorti un ouvrage récemment sur la traite négrière en Méditerranée, où effectivement, il va détailler un petit peu les débats qui ont eu lieu aussi, notamment des gens qui se sont révoltés par rapport à cette traite négrière. Il n'y en a pas beaucoup, mais il a réussi quand même à en trouver. Et il a trouvé un personnage un peu particulier aussi, qui était en fait quelqu'un qui défendait une compagnie d'assurance. Alors, qu'est-ce qui s'était passé ? Eh bien, il y avait un bateau négrier qui avait jeté toute la marchandise à la mer. Parce que à un moment donné, il y avait eu un naufrage, enfin, etc., pour se sauver. Et il demandait aux assurances de rembourser le prix qu'il avait payé pour acheter des esclaves. Et donc, ce personnage qui est cité par Gilbert Buty, lui, il va plaider le fait qu'il n'y ait pas question de rembourser parce que ce ne sont pas des marchandises, ce ne sont pas des objets, ce sont des êtres humains. Bon, donc la question de même en plein esclavage, on a tendance à en passer assez souvent en se disant mais c'était à l'époque, donc ça passait, c'était un tel abonnement habituel que personne ne se rendait compte qu'effectivement il y avait cette vie-là. Effectivement, les Marseillais ne voyaient pas ce qui se passait aux Antilles. Hein, les bateaux, ils passaient pas par Marseille, donc ils ne pouvaient avoir qu'une connaissance lointaine, à part ceux qui étaient engagés. Mais quand même, on voit que dans la chambre de commerce ou dans les compagnies d'assurance, certains étaient très au fait de ce qui se passait et du fait qu'il y avait cet amalgame et que voilà, c'était révoltant quand même.
Je ne sais pas si Buty insiste encore pour dire que les armateurs marseillais, pendant très longtemps, ils ont dormi, comparativement aux autres, Bordeaux et autres, qu'il n'y ait que lorsqu'ils se sont réveillés, Saint-Domingue n'était plus forcément des plus attractifs. Donc ce qui expliquerait que les armateurs marseillais se seraient retournés vers l'océan Indien. Je ne sais pas ce que tu en penses, s'il est toujours sur cette thèse-là ou pas du tout.
Moi, je n'ai pas retenu tout à fait cet aspect-là. Hein. Mm-hmm. Je pense qu'il explique que c'était un peu compliqué dans la façon dont les armateurs travaillaient et que c'était trop incertain. C'est-à-dire que pour faire le commerce d'esclaves, souvent, les colons ne payaient pas. Il fallait les relancer, il y avait des lettres de cachet, donc il n'y avait pas d'argent qui circulait, des marchandises. Il y avait un savoir-faire qui n'était pas trop couru à Marseille. Et il y avait une certaine, au niveau d'accumulation de richesses, il y avait une certaine... Ils pensaient que ce n'était pas assez sûr, quoi. C'était, voilà. Je crois que j'ai plutôt lu cette thèse-là.
D'accord.
Et ensuite, bon, l'histoire effectivement de l'océan Indien, bah, c'est ce que j'ai lu avec Blancard. Quoi. Mmh. Effectivement, lui, c'est, il dit qu'il faut aller là-bas. À l'époque donc, où il écrit, c'est l'époque de 1790, par là. Hein. C'est-à-dire que là aussi, là, on va arriver à Haïti avec peut-être avec ce parallèle. Hein,
tout à
par
fait.
Le fait que le moment où il y a le plus d'échanges dans la traite d'esclaves, ça va être la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire les années 1780-1800.
Alors au que, moment alors où, à Saint-Domingue, voilà. Ça commence à bouger, quoi, du
et
côté des
Haïtiens. Et après, ça bouge. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que juste avant que ça bouge, c'est là qu'il y a le plus de mouvements, et que, y compris pendant la Révolution, il y a des mouvements de commerciaux qui montent en flèche. Donc là, ça devient... Alors que le débat en France, c'est les droits de l'homme, quoi. Oui. Donc on est dans une situation comme ça qui commercialement met en valeur ce commerce-là davantage. Après, on va arriver à Saint-Domingue, mais Saint-Domingue, oui. ça va être quelque chose d'un peu particulier.
Tout à fait. Là, peut-être nous revenons au guide en tant que tel. Oui. Et ça recoupe quelle période ? Donc concernant la colonisation, toutes les colonisations, il y a eu la traite négrière. Bon, le code noir a été abordé, le code de l'indigénat, tout cela. Et de quelle période à quelle période cela peut recouvrir d'une part, et d'autre part, lorsque c'est écrit, est-ce qu'il y a une possibilité que s'il y a quelques erreurs, cela peut arriver, n'ayant pas affaire à des spécialistes, à des techniciens, qu'il y a toujours une possibilité de revenir pour ajuster un peu?
Alors,
non,
on n'a pas fait tellement d'erreurs finalement, on n'était pas sûr de nous, donc on s'est dit au moment où c'est sorti, on va avoir un tollé, on va avoir des historiens sur le dos qui vont nous dire là vous avez écrit des bêtises. Une erreur, c'est une erreur de photo par rapport à la médecine au Faro. On s'est trompé de bâtiment qu'on a mis en photo. Quelqu'un nous l'a signalé. Bon, c'était l'école du Faro de médecine, où on avait quand même mis en évidence le fait que la médecine coloniale n'était pas une médecine... c'était une médecine qui était quand même imbue de préjugés racistes, quoi, assez souvent, hein, qui développait aussi des thèses raciales sur la distinction dans les espèces humaines, quoi. Voilà, il s'était un peu insurgé, cet ancien médecin, sur le fait qu'on n'avait pas mis assez en valeur le fait qu'il y avait quand même une contribution positive de la médecine tropicale dans les pays colonisés. Donc, à part cette erreur-là, on n'a pas eu trop d'erreurs. Bon, il y a des choses qu'on a un peu ensuite soit oubliées, soit le guide qui est mis sur l'Internet nous permet d'actualiser certains aspects qu'on n'avait pas mis en avant, ou de compléter, ou ça nous sert aussi d'élément de commémoration. Parce que comme c'est très élargi, c'est pas uniquement les rues, c'est pas que les monuments, mais aussi des événements qui se sont produits dans certaines rues, par exemple. Donc du coup, c'est assez large et on peut parler presque de tout, où il y a Marseille au milieu, quoi. Hein. Ça s'arrête pas des traces visibles, ça peut être aussi des traces qu'il faut aller chercher et qu'on va gratter pour retrouver, quoi. Donc du coup, on complète de cette manière-là. Mais on n'a pas fait de... Bon, on n'a pas constaté pour l'instant dans les débats qu'on a menés, y compris d'ailleurs avec des universitaires, on avait été invités une fois ou deux, on n'a pas eu cette polémique auquel on s'attendait, qu'on était des amateurs et qu'on aurait mal vu les choses. Non. Ça a été vu. Alors, essentiellement, quand même, on se prononce avec un engagement, c'est-à-dire qu'on n'est pas des gens qui regardons l'histoire de manière neutre. Par exemple, prenons Voltaire. On est toujours dans le même schéma, Voltaire et l'esclavage. Alors, tout le monde retient à l'école Candide, à la fin de Candide. Il y a donc un nègre qui se retrouve avec un bras en moins, une jambe en moins, et qui explique que c'est comme ça que les Occidentaux ont du sucre. Voilà. C'est comme ça que vous avez du sucre. Et donc, il y a une révolte de la part de Voltaire qui met en évidence le mauvais traitement qui est réservé aux esclaves. Mais en même temps, il s'est jamais prononcé trop sur l'esclavage de façon globale. Et en plus, il s'est retrouvé, lui, actionnaire de la Compagnie des Indes. Et il avait donc des intérêts financiers liés à ce commerce-là. Bon, donc du coup, il y avait un autre aspect aussi qu'on a trouvé chez Voltaire. C'est que dans ses écrits, il y a une partie de ses écrits qui se revendiquent éminemment racistes, parce qu'il était ce qu'on appelle polygéniste, c'est-à-dire que pour critiquer la religion catholique, il considérait qu'il y avait plusieurs, il n'y avait pas Adam et Ève, mais il y avait plusieurs souches humaines. différentes, et que donc il y avait une inégalité. Bon, il avait tracé donc un axe d'inégalité, et les Noirs se retrouvaient en bas, ainsi que les Juifs d'ailleurs. Mais alors je ne sais pas pourquoi, les pires pour lui, c'était les albinos noirs.
Oui.
Il avait fait une fixation là-dessus, voilà. Mais sinon, il avait un langage là-dessus dans ses traités qui était quand même qui peuvent être revendiqués par n'importe quel raciste actuel sans problème. Donc voilà. Donc ce qu'on est allé chercher, c'est plutôt les traces de ce continuum colonial à travers donc comment ça s'est passé, ça s'est transmis de quelle manière. C'est-à-dire que Voltaire, effectivement, on n'a pas fait un article sur Voltaire en disant il y a du bien et du mauvais. Hein. On a cherché chez chacun quelle était la trace de cette filiation un peu coloniale et raciste, et uniquement ça. Donc du coup, effectivement, on pourrait dire, vous avez été un peu sévère. Bon, effectivement, c'est ce qu'on a assumé, nous, de faire ça. Il existe suffisamment d'ouvrages ailleurs sur les personnages pour aller se documenter et voir des choses qui peuvent être positives chez les uns et chez les autres. C'est pas ce qu'on... Nous, on n'avait pas envie de faire une balance comme ça. On voulait simplement expliquer que le continuum colonial, il vient de l'esclavage, entre autres, et il se perpétue encore aujourd'hui sous certaines formes.
Alors, si nous poursuivons, nous reprenons un peu tout ce travail qui est fait. Cela permet d'avoir une vision globale sur ce que l'occupation de l'espace public aussi.
Oui.
Donc, et cela renvoie à une forme d'idée véhiculée qu'effectivement, que dans l'esprit toujours de l'Occident, qu'il y a une suprématie toujours des Européens et que les autres peuples sont des moins que rien. Qu'est-ce que tu en penses parce que quand on voit toutes les places, les noms de rues, est-ce que l'on trouve beaucoup de personnes issues de la diversité, par exemple ?
D'abord, je reviens sur les monuments en bas des escaliers de la gare. Là, c'est vraiment des monuments qui sont assez importants, ou la Porte de l'Orient, ou des choses comme ça. Il y a des monuments visibles à Marseille, bon, à part la Vierge de la Garde, où là, bon, il faudrait regarder dans les ex-voto. On n'est pas allé regarder, précisément, mais peut-être qu'on pourrait trouver des choses aussi. Mais à part ce monument qui se voit de loin aussi, je veux dire, les escaliers de la gare, c'est quand même le point d'entrée central, la chambre de commerce, quand on regarde comment elle est décorée à l'intérieur. Quand on regarde la mairie de Marseille, sur le fronton, il y a Louis XIV. Louis XIV, c'est aussi derrière Colbert et
le
commerce négrier, le code noir. Donc tout ça, c'est là et sans critique. Quoi. Louis XIV reste le roi soleil. Il n'est pas mis en évidence comme étant un négrier. Colbert, si on parle de Colbert, bon, on va en parler pas sous cet aspect-là. On va le parler comme quelqu'un qui aurait développé l'économie, une économie d'État, une interventionniste d'État, etc., et développer les richesses de la France. Mais effectivement, derrière, il y avait, pour produire ces richesses, il y avait des esclaves. Quoi. Donc, effectivement, cette idée de renvoyer sans arrêt à cette période-là, elle est visualisée comme une période glorieuse, quoi. Si on regarde Marseille, le 19e, c'est là où se développe le plus. Même avant, c'est un port mondial à l'époque de l'esclavage. Même si c'est pas lui, c'est pas Marseille qui a été le plus engagé. Mais quand même, je veux dire, le regard vis-à-vis des peuples, des autres peuples, était un regard vu d'en haut, quoi, vu de la domination. Et donc, effectivement, on va trouver sans arrêt ces traces-là. Quoi. On trouve très peu de traces qui peuvent signifier l'amitié entre les peuples, une véritable coopération entre tous. Voilà, on va le retrouver dans les associations aujourd'hui, contemporaines, mais en même temps, elles sont pas toujours visibles, ou des fois, quand on veut les rendre visibles, on veut dire que c'est la totalité alors que c'est l'exception. Quoi. Donc, du coup, c'est vrai, on a vu ça pour le foot, par exemple, Black Bomber, etc. On met en évidence certains événements, certains moments, mais en fait, ça occulte tout le reste. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le mettre en évidence, mais si on le met en évidence sans parler que ce qui reste derrière, c'est quand même quelque chose qui reste atroce. On le voit avec aussi la domination du Front National et de ses idées. Hein. Donc nous, on s'érige un peu en opposition à cette façon de voir les choses. Et nous, on voudrait justement essayer de démonter les mécanismes. Pourquoi on choisit de ne pas enlever, par exemple, certains monuments? Ben, on va dire que c'est trop compliqué. Pourquoi on ne débaptise pas certaines rues? Il a fallu attendre quand même 25 ans pour avoir une rue Ibrahim Ali. Et un changement fondamental d'orientation de la mairie, qui s'est retrouvé quand même sous pression des mouvements qui l'avaient porté à ce pouvoir-là quand même. Hein, pour arriver à changer, il a fallu que la mairie, les prétendants à la mairie s'appuient sur quelque chose de plus large que les partis politiques existants. Donc, il faut bien, pour garder cet équilibre, il a fallu qu'il cède quand même du terrain. Et c'est ce qui s'est passé, là on a vu, avec le fait que la rue Bugeaud a été débaptisée. Bon, on a choisi Bugeaud, on aurait pu prendre en vrac Cavagnac et quelques autres. Ça aurait été mieux de faire tout en... Comme ça, ça secouait tout le monde, mais au moins c'était fait. Tandis que là, il va falloir y revenir sur des gens qui ont fait autant de dégâts que Bugeaud. Hein. Bon, donc effectivement... on voit qu'il y a une certaine réticence parce qu'il y a, en filigrane, il y a ce roman national où la France, pays des droits de l'homme, a apporté la liberté au peuple. Quoi. Voilà. Et le drapeau bleu-blanc-rouge, qui était le drapeau de la Révolution française et de la prise de la Bastille, s'est trouvé aussi le drapeau de la prise d'Alger et de la colonisation de la plupart des pays d'Afrique et d'Asie. Donc c'est vrai qu'on est toujours dans l'ambiguïté avec ce drapeau et cet hymne national aujourd'hui qui a été utilisé dans un sens complètement opposé de celui de sa naissance.
L'autre point qui peut être dérangeant à mon sens, c'est que l'on cantonne, par exemple, tu parlais des Black Blancs Beurre, c'est à ce moment-là, mais c'est toujours dans une forme de discipline, c'est-à-dire beaucoup le sport. Dire le sport, ouais. Le chant, ce sont des domaines qui semblent être... pour tous ceux qui sont ici, des enfants de la colonisation, plus que dans ce qui serait de la science, ce qui serait de la littérature, ce qui serait de. Est-ce que ce n'est pas une façon de confronter cette idée que ces personnes-là ne sont bons que dans ces disciplines-là, que dans ces domaines-là?
Probablement.
Même si cela change un tout petit peu, pour
mieux
dire.
Mais ce qui se passe, c'est que quand même, c'est pas qu'ils sont bons que dans ce domaine-là, c'est qu'on a tout fait pour trouver une relève de ce côté-là.
Oui,
aussi,
et les conforter
hein.
dedans.
C'est ça la question. C'est pas passé spontanément. C'est-à-dire le tri qui s'est fait. Aujourd'hui, par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle Bienvenue en France au niveau des universités. C'est le prix à payer pour les étudiants étrangers qui a été multiplié par 20. Bon, certaines universités ont décidé de ne pas l'appliquer la première année, mais progressivement, ils sont en train de l'appliquer. Il y a un mouvement actuellement de contestation dans l'université de Marseille, ex-Marseille Université, contre la mise en application de cette mesure. Il y a des tracts qui sont distribués dans les universités en ce moment, à La Timone ou à Aix ou ailleurs, pour protester contre la mise en application de ces droits qui deviennent des droits exorbitants pour les étrangers. Donc on voit bien... qu'on fait, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, on va recruter des footballeurs dans les écoles de foot et parfois, on fait un tri darwinien, c'est-à-dire ceux qui sont passés et qui ont réussi, on va les garder et ceux qui n'ont pas réussi, on les lâche au milieu, quoi. C'est un peu comme la traversée de la Méditerranée, hein. C'est la même chose. On va se retrouver... ceux qui ont réussi, on va les mettre en avant en disant que ça montre que effectivement on est bienveillant, que l'Occident est bienveillant, mais en fait on va cacher tout le prix à payer de tout ça. Donc je crois que c'est plus ça que de dire ils sont bons que là-dedans. Alors après effectivement ça va générer l'idée que effectivement il y a que là-dedans qui sont capables de rivaliser effectivement, voilà. mais le point de départ c'est qu'on a besoin de footballeurs.
Oui.
On a besoin de talent dans certains domaines et on choisit certains domaines pour les mettre en avant. Si demain, même quand il y a une écriture, je veux dire, métisse ou autre, on peut mettre en avant hein, des personnages. Oui. Je pense qu'ils sont capables de mettre en avant tel ou tel personnage. L'essentiel, c'est que ça ne change pas globalement. Hein. C'est-à-dire, globalement, c'est toujours une culture blanche, masculine, etc. Et en face, tout le reste va être considéré comme un exploit si on y arrive. Quoi.
Oui. Donc avant de faire cette pause musicale, nous rappelons que ce qui concerne l'histoire de la France sur, et avec ses anciennes colonies de la Caraïbe, dont Haïti, anciennement Saint-Domingue, et j'ai surnommé la perle des Antilles, il convient de se souvenir de la toute première mondialisation, on en a parlé, à travers le commerce triangulaire et le commerce transatlantique d'êtres humains. Ce trafic inhumain entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique a été à l'origine de la souffrance innommable de résistance et de génocide, comme celui des peuples amérindiens dont on parle très très peu, n'est-ce pas ? On évoque très très peu. Alors, nous allons faire une petite pause musicale avant d'aborder un peu ce point et d'aborder surtout la question des deux abolitions de l'esclavage, parce que beaucoup de personnes ignorent qu'il y a eu que deux abolitions. Ouais. Et la première de 1795 a été occultée, voire oubliée. Pour quelles raisons, nous allons en discuter. Et une autre, 1848, qui est beaucoup plus valorisante.
Oui,
pour le pays.
Celle-là est célébrée, la première ne l'est pas.
Tout à fait. Donc merci Sidi pour cette pause musicale. Nous allons retrouver une grande chanteuse haïtienne à la personne de Toto Bicente, Papa Dambala.
Soleil fin couché, gade na travay. Mais tout moun, c'est même maître là qui créé. Mais pour qui ça nous pas cap gen liberté?
Petit tuyau, papa dambala.
Démo 4 Pulse 88.4 en DAB+, hein, c'est la nouvelle terminologie, pourrions-nous dire. Donc c'est notre tentative aujourd'hui de réamorcer l'émission concernant les Antilles et la Caraïbe. Avec Daniel, nous avons démarré et l'autre invité, il s'agit de la personne de Jonas. Bonsoir Jonas, comment vas-tu ?
Bonsoir Jean-Marc, bonsoir Daniel, bonsoir le metteur en onde, dont j'ai oublié le nom. C'est pour moi un énorme plaisir de recommencer, de reprendre le chemin qu'on a abandonné il y a quelques temps. En souvenir de tous ces bons moments-là qu'on a passés ici pour discuter de politique, d'actualité, surtout d'Haïti. C'est vrai que peut-être la voix, les oreilles qui sont toujours été à l'écoute, qui ont toujours été à l'écoute d'Haïti, c'est Radio Galère avec l'émission Démocrate Parole.
Alors, nous allons ouvrir notre rubrique « Le savez-vous ?», rubrique que nous avions laissée à partir du moment où nous avions arrêté l'émission pour faire une pause. Ce soir, nous allons, comme je vous le disais précédemment, nous arrêter aux deux abolitions de l'esclavage, dont la première a été quasiment occultée, voire oubliée, mis bien loin. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi ? En termes de propositions, je vais demander à Daniel qu'il puisse parler de la première abolition de l'esclavage. Voir un peu dans quelles circonstances les choses se sont déroulées, pourquoi il y a-t-il eu cette abolition a été proclamée en France. Et Jonas interviendra pour pouvoir parler d'Haïti, de tous les soubresauts, de toutes les insurrections, de toutes les révoltes d'esclaves qu'il y a eu en Haïti.
Oui, c'est-à-dire cette première abolition de l'esclavage, on n'en parle pas. Quand on célèbre l'abolition de l'esclavage, on a décidé de prendre la date de 1848. C'est donc la deuxième abolition de l'esclavage. Donc je vais revenir sur cette première. Celle-là, elle est dans la foulée de la Révolution française de 1789, où il y a une déclaration qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme. Et là, cette Déclaration des droits de l'homme, eh ben, elle n'avait pas pour vocation de s'appliquer aux esclaves, notamment, et même avec difficulté pour concerner ce qu'on appelait à l'époque les hommes de couleur, hein, les libres de couleur, pardon. Là aussi, il y a eu tout un débat pour savoir si eux, ils avaient droit à être dans la Déclaration des droits de l'homme et avoir les mêmes droits que tous. Donc il y avait des troubles en France à ce sujet-là. Hein, des gens qui avaient opté pour la Révolution française, mais qui ne voulaient pas qu'elle s'applique à tous, et donc elle devait s'appliquer qu'aux Blancs. Bon, donc ça a généré un certain nombre de luttes qui se sont passées à plusieurs phases en France. Pendant ce temps, effectivement, il y avait une colonie, la colonie la plus importante pour la France, c'était donc à l'époque s'appelait Saint-Domingue. Saint-Domingue, c'est le nom qu'elle avait à cette époque-là. Ça suivait le nom d'Hispaniola, qui avait été donc l'île, la fameuse île où a débarqué Christophe Colomb. Il avait découvert qu'il y avait un autre continent. Voilà. Donc, en fait, il a aussi été découvert par les Indiens. Bon, mais ça s'est mal passé pour eux. Voilà. Les Indiens ont découvert à ce moment-là la société occidentale. On peut dire les choses dans l'autre sens. Hein. Et pour leur malheur, hélas. Donc, cette île de Saint-Domingue, c'était une île très riche pour la France. C'était la première, l'île qui fabriquait du sucre, et c'était la première exportatrice de sucre au niveau mondial. Bon. Et ce sucre, il ne poussait pas tout seul, il fallait des bras. Et ces bras, c'était essentiellement les esclaves. Bon. Donc, il y a eu plusieurs révoltes esclaves dans l'île de Saint-Domingue. Et au moment de la période révolutionnaire, donc, il y a eu une révolte d'esclaves et en même temps une situation où il y avait une rivalité entre les puissances anglaises, espagnoles et françaises, notamment, qui avait affaibli un petit peu la position française. Et donc les colons se sont battus comme des fous pour essayer d'éviter que les droits de l'homme s'appliquent aux esclaves, parce qu'eux s'estimaient qu'ils allaient être ruinés. Hein. Et par contre, du point de vue des esclaves, ben, y a quelques idées qui commençaient à se diffuser sur le fait qu'effectivement, bon, il pouvait être question de voir les choses autrement que simplement sous l'angle d'une déclaration des droits de l'homme qui n'avait pas cité la couleur des hommes, et donc ça pouvait les concerner. Donc il y a eu des troubles. Au départ, et qui ont amené au fait que pour apporter le calme là-bas, dans les révoltes d'esclaves, on a envoyé donc une délégation de la Convention nationale française. Donc on est déjà en 1793, 94, 1793, pardon. Et ils sont pas arrivés. Il y a eu deux envoyés, enfin trois envoyés finalement. Il y en a deux qui sont restés sur place. Et parmi eux, certains faisaient partie de la société qui voulait la fin de l'esclavage. Et donc, il y a eu une opportunité entre la révolte des esclaves et l'affaiblissement de la France sur ce terrain-là par rapport à la présence anglaise et espagnole, et la présence aussi d'un envoyé qui lui-même pouvait avoir quelques idées sur le fait qu'on pouvait avancer vers la libération des esclaves. Donc tout ça mis bout à bout a abouti au fait que pour éviter d'être submergé par la révolte des esclaves, l'envoyé de la République, lui, eh bien, il a décidé d'accorder la liberté aux esclaves. Mais il l'a fait de son propre chef en le faisant comme une continuité de la Révolution française. Et ça ne s'appliquait qu'à Saint-Domingue. Et quand il est revenu en France, effectivement, il a été soumis à un procès parce que ce n'était pas une décision qui avait été prise. Mais avant d'être soumis à un procès, il est revenu avec des délégués qui étaient élus sur place. Il y avait esclaves libres de couleur, on va dire, et blancs, qui avaient été élus et qui, donc, sont revenus et ont obtenu l'abolition de l'esclavage. Donc l'abolition de l'esclavage, cette première abolition, est vraiment issue de la révolte des esclaves. Et donc, du coup, c'est le seul endroit où l'abolition de l'esclavage a été occasionnée par la révolte des esclaves. Et c'est quand même une date qui aurait pu être notée partout. Hein. Là, on n'est que dans la première période. On n'est pas dans la période encore de l'indépendance de Saint-Domingue. On est dans la période du fait que les esclaves ont obtenu le droit à la liberté sous la direction de Toussaint Louverture à cette époque.
Voilà. Jonas, à toi. Hein, donc,
Oui. Daniel a presque tout dit. Moi, je vais faire une petite parenthèse. Pour replacer le contexte. Nous qui sommes des descendants d'esclaves et des gens qui ont faisons partie d'une race ou d'un groupe de personnes qui avons combattu et gagné, qui avons vaincu la colonisation et l'esclavage, il y a tout un travail de déconstruction, reconstruction qui est en train de se faire. Et cela veut dire que la vision qu'on avait, la façon de traiter les sujets qu'on avait il y a 50 ans, c'est plus pareil. On est obligé de les traiter différemment. Par exemple, la jeunesse haïtienne d'aujourd'hui, donc j'espère que le jeune Laroche est en train de m'écouter. La jeunesse haïtienne aujourd'hui rejette ce sujet de dissertation qui disait que la révolution haïtienne est fille de la révolution française. Parce qu'ils considèrent que les esclaves n'ont pas attendu la Déclaration universelle des droits de l'homme pour entamer la lutte contre l'esclavage, contre la colonisation. Et ça, on en a déjà travaillé quand il a fallu travailler sur les résistances, ces actes de résistance qui commençaient par les gens qui se suicidaient, qui se jetaient en mer, les actes de résistance comme les mères qui avortaient pour ne pas... C'est une tendance en Haïti qui explique qu'il faut cesser cette histoire de la révolution haïtienne est fille de la révolution française. Et ce que justement ça c'est pour revenir sur cette attitude de résistant qu'ont eu les esclaves et qui va justement aboutir à cette proclamation de la première abolition de l'esclavage de 1793 par son Tonax, parce que la résistance prenait forme de plus en plus, des formes beaucoup plus systématiques. Et avant même de parler de la résistance des Noirs, il y a un exemple flagrant qui s'est produit au niveau de l'île de Saint-Domingue. On en a parlé. C'est le marronnage quand il a commencé par le cacique Henri Quillot. On est en 1517. Cet indien, on va appeler ça, cet aborigène, on va dire, qui a été élevé par les Espagnols, il s'est rébellé contre les Espagnols depuis le repartimientos et même l'installation de la colonisation espagnole en République dominicaine. Pourquoi je parle de cette rébellion de Cacique Henriquillo? C'est que quand les esclaves noirs de Saint-Domingue commencent à pratiquer le marronnage, le marronnage n'était pas dans ses débuts. Il y avait déjà des groupes de gens qui vivaient, des marrons qui vivaient, et parmi ces marrons, on trouvait tout le monde. On trouvait des noirs, on trouvait des esclaves noirs, on trouvait des espagnols, on trouvait des aborigènes, etc. Donc c'est la naissance même de cette société latino-américaine qui commençait à prendre force. Et quand l'abolition de l'esclavage sera proclamée en 1994, puis 1995, la première dans le Nord, 1793, c'est la première de Félicité Santonas qui touchait que le Nord. Après, ça s'est étalé sur toute la République, et dans les autres colonies, comme tu as dit, poussé par cette rébellion-là. Je voulais dire que là, on est en 1793 et l'événement majeur de l'histoire de la République naissante d'Haïti, c'est le 14 août 1791, qui est la grande cérémonie du bois caïman, où les Haïtiens vont débuter carrément la révolution, cette révolution qui va aboutir, qui va pousser. Donc les Noirs étaient déjà rangés, représentaient une force, et Santonax les a libérés pour que ces gens-là ne s'allient pas aux Anglais et aux royalistes qui étaient capables de changer de camp si jamais ils n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient en fonction au niveau de la métropole.
Oui, nous avons très peu de temps puisque nous n'avons qu'une heure pour cette fois-ci, malheureusement. Alors ce que je propose, c'est de rappeler rapidement 1804, c'est journée de l'indépendance, mais c'est à cette indépendance, il y a au niveau de la France, il y a un esprit revanchard, me semble-t-il, à travers soit la dette, où on parle de dédommagement. Hein. Très très rapidement, pour arriver aux événements que nous souhaitons organiser.
C'est-à-dire la France n'a jamais accepté cette défaite. Hein,
contre les troupes napoléoniennes,
indigènes qui ont battu les troupes napoléoniennes. Et moi, à l'école, comme les bouquins d'histoire ont été écrits par les frères de l'instruction chrétienne, ce qu'on nous a appris, on nous a dit que l'armée de Napoléon a été décimée par la fièvre jaune. Et encore, je pense que hier, j'ai vu quelqu'un sur Internet avec sur les réseaux sociaux qui parlait de la bataille de Vertières et qui disait, maintenant, mon but à moi, c'est de savoir comment enseigner, inclure la bataille de Vertières dans l'histoire de France. Donc justement, la France n'a jamais accepté la reconnaissance de cette indépendance. La reconnaissance de cette indépendance, vous voulez dire quoi? La non-reconnaissance de cette indépendance faisait d'Haïti une nation complètement isolée. On n'avait pas le droit de commercer avec Haïti, etc., etc. Dans les premières années de l'indépendance, avec Dessalines, tout ça, c'était pas question de négocier l'indépendance qu'on avait gagnée avec le sang de nos ancêtres. Donc la France, avec des velléités de reconquête d'Haïti, a proposé en 1825 l'ordonnance de Charles X, en avril 1825, qui nous a posé ce dédommagement qui est estimé aujourd'hui à plus de 21 milliards d'euros de dettes qu'on a dû payer à la France. Donc ça a hypothéqué complètement tout le développement d'Haïti. Et aujourd'hui, si Haïti est dans cet état-là, ce dédommagement, qui a été un véritable rançon imposé à Haïti, est largement le responsable.
Merci. Donc, nous sommes en 1825, donc ça fera 200 ans. Alors, nous avons essayé, nous tentons à Marseille de briser le silence qu'il y a sur Haïti. Il y a une première initiative qui a eu lieu. Là, nous avons le projet d'organiser une autre initiative. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots assez rapidement
Assez rapidement, nous allons reprendre l'activité qu'on avait débutée au mois de mai dernier, parce qu'il y a un effort d'information qui doit se faire. Vous voyez, les pages d'histoire française, de l'histoire française, ne parlent pas de ces trucs-là. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je comprends pourquoi on les occulte, mais on va recevoir un politologue le 8 février prochain, qui s'appelle Jacques Nézy. C'est un politologue très connu qu'on voit très très souvent sur France 24, qui intervient pour parler, analyser la situation du pays. Il a écrit un livre où il explique justement, où il explique tout le trajet, le parcours caillouteux et chaotique d'Haïti qui a conduit à la situation actuelle d'Haïti. Il l'appelle le livre « La fabrique d'une communauté de semblables ».« La fabrique d'une communauté de semblables ». Donc, il viendra le 8 février prochain, le lendemain de l'anniversaire du départ de Jean-Claude Duvalier. Il viendra nous parler de ce bouquin et proposer des pistes. Et aujourd'hui, en 2025, impossible de parler d'Haïti, de parler de l'échec de la construction de la nation haïtienne sans évoquer cette indemnité, ce dédommagement qui nous a été imposé. Donc, il en sera largement question.
Et symboliquement, il y aura une soupe sous la soupe
l'indépendance. La soupe de l'indépendance, ça, c'est quelque chose qui est vital pour Haïti, qui explique, qui retrace un petit peu les luttes et c'est toutes les luttes qui ont conduit à l'indépendance. Et c'est notre repas, c'est le repas qu'on partage justement le 1er janvier.
D'accord. Merci à Daniel, merci à Jonas et merci à Sidi, en espérant vous retrouver le mois prochain pour une prochaine émission de Démocrate Parole sur 88.4. Merci. Allez, merci. Chez B. Mmh. À plus.
Messieurs et dames, c'est vendredi, printemps et plaisir. Vous écoutez Démo 4 Paroles de 20 à 21h30. Démo 4 Paroles, Bornou-la-Voix, sur le 88.4. Écoutez et entendre, tout plaisir en nous, là.
Les cailloux passent à s'envier, alors doit que profiter, compagnie plus bon dominé.
Nous cailloux, d'après nous, le gars de l'Ouest, si ça veut, et nous t'avons pas.